Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégie de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégie d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo, au format court, ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Hello à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir au micro du podcast Leslie Reynaud, qui est directeur de la destination Ventoux Provence Tourisme, qui va nous présenter son parcours. Et aujourd'hui on va vraiment parler de vraiment l'aspect destination touristique, le côté office de tourisme. C'est vrai que tu es le premier, Leslie, que j'accueille en tant que destination. Enfin, j'ai eu Soline, mais pour la partie influence. Et là, ça ne va pas être notre sujet. Là, on va essayer de... Le sujet phare de notre interview, ça va être de comment penser sa destination comme une marque, comme une entreprise, et non plus comme, pour la plupart, vraiment juste une association. Mais là, on est vraiment dans cette notion de marque et de gestion d'entreprise. Donc, merci à toi, Leslie, d'être au micro du podcast. Je te donne la parole, je te laisse nous présenter ton parcours, notamment le fait que tu as été, ce qui fait la singularité aussi de ton parcours, c'est que tu as été des deux côtés. Tu as été côté adhérent et hébergeur et directeur d'office de tourisme. Donc, je te laisse nous partager ton parcours pour commencer.
Oui, écoutez, merci. En tout cas, merci Yann de m'accueillir. Je suis absolument ravi de pouvoir faire ce podcast et de pouvoir échanger justement sur ces problématiques. Le tourisme a extrêmement évolué et à un moment donné, nos organismes de destination doivent aussi pouvoir s'adapter. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le tourisme à peu près, même un peu plus. J'ai vraiment un parcours, je n'ai fait que du tourisme. J'ai commencé par un BTS tourisme, ensuite j'ai un diplôme de guide interprète national et ensuite après j'ai vraiment orienté et j'ai travaillé dans le marketing et j'ai commencé ma carrière dans les Hautes-Alpes. À l'entrée du parc du Queyras, là-bas, donc sur un poste de responsable marketing et communication. Donc vraiment, vraiment dans les années 2000, donc entre 2000 et 2006. Donc on était vraiment sur les prémices d'Internet, du digital, etc. Donc j'ai encore connu et je pense que ça m'a beaucoup enrichi. La vieille époque où on faisait encore les courriers, où on avait encore les gens au téléphone, et, enfin voilà, toute cette ancienne culture où les gens venaient encore dans l'office du tourisme chercher des infos. Donc voilà, ça j'ai fait pendant 6 ans, on a fait de l'événementiel, on a fait plein de choses. 2006, j'ai évolué, je suis parti en Isère et je suis devenu directeur de la station de Hauts-en-Roisin.
Ah, d'accord.
Qui est une station, c'est un satellite de l'Alpe d'Huez. Donc voilà, pendant 4 ans, j'ai pu travailler sur la promotion du domaine de l'Alpe d'Huez. Donc ça, c'était extrêmement enrichissant avec une mission qui était claire, c'était de développer l'événementiel, l'animation et la notoriété de la station.
Ok.
On a pu vraiment se faire plaisir. J'ai pu notamment organiser plusieurs Coupes du Monde, Coupe du Monde de ski alpinisme, plusieurs championnats de France de VTT, enfin vraiment sur des gros, gros, gros événements. Mm-hmm. C'était top. Ensuite, après, en 2010, j'ai un peu changé d'orientation. J'avais envie d'évoluer sur d'autres projets, donc j'ai travaillé sur j'ai monté une société événementielle. Donc on faisait essentiellement de l'événement autour des nouvelles glisses et des activités trail et course à pied. Puis après, donc, ça a évolué après sur un projet un peu plus d'hébergement insolite jusqu'en 2015. 2015, voilà, pour des raisons diverses et variées, il a fallu changer. Donc je suis revenu dans l'office. J'étais dans le privé, mais je suis venu dans l'hôtellerie. Mm-hmm. Donc, en tant que directeur commercial et marketing pour un petit groupe hôtelier où j'avais la commercialisation de 2 hôtels 3 étoiles, une résidence de tourisme en station de ski, et puis une plage privée essentiellement. Donc ça pendant jusqu'en 2019. Et puis 2019, envie de rechanger un petit peu, de revenir un peu dans les offices du tourisme. Et donc du coup,
fin des Hautes-Alpes. Un peu plus dans le sud cette fois.
On retourne un peu plus dans le sud, parce que moi je suis carpentracien d'origine. Voilà, c'est retour aux sources. Donc, on est parti donc dans le Gard à Bagnols-sur-Cèze donc pour travailler pour la communauté d'agglomération du Gard-Rhône et l'office du tourisme Provence-Occitane. pendant 3 ans. Et puis donc ensuite, le chemin faisant, l'opportunité, la boucle a été bouclée. J'ai grandi à Carpentras. Hop, je suis revenu à Carpentras donc pour diriger la destination en Haute-Provence. Voilà, donc une grosse structure avec beaucoup de salariés sur 25 communes. Et donc la particularité, c'est qu'on travaille aussi en réseau avec les autres offices du tourisme autour du Ventoux, où on mutualise beaucoup de moyens en termes de promotion, hein, moyens humains et autres. Donc pour faire vivre une marque qu'on appelle Ventoux des Terres au Sommet, donc qui est une nouvelle marque. Et donc de plus en plus, on mutualise autour de cette marque Ventoux, et on casse un petit peu, si vous voulez, les limites administratives. Et voilà, c'est vraiment un chouette projet qui marche extrêmement bien. Mmh. En parallèle de ça, dans ces fonctions, je suis aussi président du club de la presse des offices du tourisme de France.
D'accord, ah, ça je ne savais pas.
Et je représente les organismes institutionnels du tourisme au sein du conseil d'administration de l'APST, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, donc qui est l'organe national de garantie financière des opérateurs de voyage.
D'accord, ok. Voilà. Beaucoup, beaucoup de casquettes quand même. Ok, et j'en découvre au passage, hein, donc super. Merci pour cette présentation. Et là, on va s'intéresser un peu plus sur la casquette Office de tourisme. Néanmoins, je tiens vraiment à souligner qu'il y a cette particularité dans ton parcours, c'est que il y a cet esprit entrepreneurial, du coup, du fait des expériences avec la création de la société. Il y a cet esprit de création d'événements. Il y a vraiment cette notion de création et de porter des projets, etc. Au-delà de simplement faire la promotion touristique, il y a vraiment cette notion de création, de projet. Et
tout
ça, c'est ça, et voilà, et même de commercialisation, étant donné qu'il y avait cette partie, ce grand parcours dans l'hôtellerie. Justement, tu as commencé ton introduction un peu comme ça. Aujourd'hui, comment tu arriverais à expliquer pourquoi c'est les collaborations entre les offices de tourisme et les sociopros, donc dans les sociopros, on inclut les hébergeurs touristiques, les restaurateurs, les commerces, les prestataires d'activités principalement, et dans mes auditeurs, on a principalement des hébergeurs touristiques. Pourquoi les collaborations entre les socioprofessionnels et les offices de tourisme sont encore trop rares, à mon sens? Est-ce que tu y vois aussi les limites d'un modèle économique? Tu en as un peu parlé tout à l'heure, hein, que tu as bien précisé avant on allait dans les offices de tourisme, avant, tu l'as dit clairement. Quelle est ta vision aujourd'hui de ce modèle économique qui existe encore dans de nombreux offices de tourisme? Est-ce que tu peux rappeler comment ça fonctionne actuellement? Qu'est-ce que tu as vu? Et on va bifurquer juste après sur qu'est-ce que toi tu as mis en place.
Alors, il faut savoir qu'initialement, historiquement, et ça existe toujours, et c'est peut-être ça qu'il faudrait faire évoluer. En tout cas, les missions régaliennes d'un office du tourisme, c'est l'accueil, l'information et la promotion. On accueille, on informe et on assure une promotion globale du territoire. Ça, c'est des missions qui existent depuis que le monde est monde et qui sont vraiment ancrées, en fait, si vous voulez, dans la culture des offices du tourisme. Maintenant, moi, après vraiment toutes ces réflexions, etc., j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, pour moi, maintenant, les offices du tourisme, leur mission, c'est l'hospitalité, la médiation et la prescription. Donc, on a complètement changé. Pourquoi l'hospitalité? Parce qu'à un moment donné, les gens n'ont plus besoin de venir dans un office du tourisme pour chercher une information. Donc, s'ils viennent dans un office du tourisme, il faut savoir bien les accueillir et faire en sorte qu'ils soient extrêmement contents de venir sur le territoire. J'ai envie de dire, on repart sur des choses extrêmement basiques. On n'est plus du tout dans une logique d'information, mais vraiment d'accueil. On est content de vous accueillir. On vous propose des services pour que vous sentiez bien, etc., etc. La médiation, pourquoi? La médiation, pour une raison simple, c'est que maintenant, avec le changement climatique, notamment, les missions des offices ont changé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez, nous ici, on a les problématiques de feu de forêt, on a les problématiques d'eau. Donc, quand est-ce que c'est ouvert? Quand est-ce que les massifs sont ouverts? Quand est-ce que les massifs sont fermés? Quels sont les sites naturels à protéger ou pas? Et ça devient une mission extrêmement importante en fait pour les offices du tourisme. Alors, on va dire que peut-être tous les offices de tourisme ne sont pas encore concernés, mais on s'aperçoit d'année en année qu'en fait, quelle que soit la typologie en fait et la zone touristique, on va être sur des problématiques différentes, mais cette part de médiation devient extrêmement importante. Donc, il est important de se professionnaliser là-dessus et de pouvoir après diffuser la bonne information auprès des professionnels. Parce qu'à un moment donné, ces professionnels-là, c'est eux qui les accueillent, les touristes, c'est pas nous. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils s'y renseignent au mieux. Et la dernière partie, qui est pour moi la partie peut-être la plus importante, qui est vraiment la prescription, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour donner des brochures, donner des informations. Pour moi, on a un vrai rôle de manager local, de structuration, de coordination de l'offre, de faire en sorte que l'offre locale soit connue et reconnue en interne, à l'externe, et que les gens puissent travailler en maillage, et que nous, on soit vraiment dans une logique de recommandation et de faire en sorte que notre information, si vous voulez, tout ce qu'on peut véhiculer, soit le mieux transmis aux professionnels qui vont utiliser notre source. On est vraiment une source d'aide à la commercialisation et de prescription au sens très large. C'est dans ce sens-là que le métier a beaucoup évolué. Pourquoi il y a une déconnexion qui existe encore ? Ça, c'est l'évolution. C'est, malheureusement, le tourisme est un secteur, les offices du tourisme, où il y a des gens en fait, qui font carrière toute leur vie, qui sont des super pros. Hein. Ce n'est pas du tout ça que je remets en question, hein, bien évidemment. Mais à un moment donné, il faut aussi de temps en temps sortir la tête du guidon et observer ce qui se passe, observer le monde qui est autour. Simplement, après, quand vous êtes dans des schémas un petit peu classique, si vous voulez, sans forcément en plus avoir une réelle volonté de business, mais vraiment d'information, vous créez à un moment donné un fossé entre...
les attentes du territoire, les attentes des acteurs.
Quelles sont les attentes du territoire ? Parce qu'à un moment donné, on reste sur des vieux principes d'accueil, information, convention. Sauf que derrière, les gens ne viennent plus dans les offices. Donc quand je discute des fois avec certains collègues dont le seul but et l'enjeu, c'est comment est-ce que je peux dynamiser la fréquentation de mon bureau d'information touristique. Bon, on n'est pas à côté de la plaque. Pour moi,
toi, le problème, il ne se pose pas là, en fait. Il n'est pas dans comment je peux générer plus de flux au sein de l'établissement, en fait. C'est
pour,
ça, d'accord.
Pour moi, l'enjeu, il n'est pas du tout là. Ce n'est pas comment je peux générer plus de flux. C'est comment est-ce que je peux apporter des services à mes pros, apporter des services aux visiteurs, mais surtout aussi apporter des services aux habitants et faire, en fait, de ces bureaux d'information touristique des lieux d'expérience, des lieux de visite, et non pas juste des bureaux d'information. Après, le champ possible est ouvert. Ça peut être des boutiques, des musées, des lieux hybrides, imaginez plein de choses. Et surtout, ce qui est important, c'est casser, en fait, si vous voulez, cette espèce d'ancienne relation d'adhérent à l'Office du tourisme et vraiment positionner l'Office du tourisme comme un moteur et comme un coordinateur de l'offre locale, un vrai manager qui doit travailler avec tout le monde et qui doit se positionner comme un leader. Et je ne vais pas dire un apporteur d'affaires, ce n'est pas tout à fait le mot, et encore que ça pourrait, mais en tout cas, fournisseurs de services professionnels qui vont aider les prestataires du territoire à pouvoir développer leur activité et mieux accueillir leurs clients. Et la vraie plus-value, elle est là-dessus, au même titre que je pense qu'il est extrêmement important que les OT retravaillent vraiment leur politique.
Leur modèle économique.
Leur modèle économique et d'autofinancement. Parce qu'au-delà du fait que les subventions diminuent un peu, ça c'est une problématique globale, et à un moment donné aussi, d'avoir un modèle économique qui permet de rentrer de l'argent, ça impose en fait d'avoir un business model, et quelque part en fait, la relation avec les prestataires change, parce qu'on parle de businessman, donc il y a forcément un lien de confiance, et du moins un discours qui est un petit peu différent, ça engendre d'autres difficultés, bien évidemment. Mais il faut réussir vraiment à passer ce cap, et sortir de l'organisme institutionnel très politique, on distribue de la doc, non, il ne faut pas parler sous parce que c'est tabou, à un vrai modèle en fait, de l'Office du tourisme business. Alors, business, l'Office du tourisme, sans les collectivités, ne sera jamais rentable tout seul. Et ce n'est pas ce qu'il lui demande, je vais plus loin que ça, je pense même qu'il ne faut pas. Mais par contre, qu'il soit vraiment dans une logique de développement et de rentabilité, à la fois pour lui, mais surtout en fait, pour le territoire.
Ça veut dire que administrativement, c'est pas ce qu'on vient challenger, c'est pas la structure administrative qu'on vient challenger, c'est vraiment le modèle économique qu'on vient là essayer de changer.
C'est ça, il faut se positionner. Nous, on a beaucoup travaillé, si vous voulez, sur la posture qui était de dire, à un moment donné, le métier évolue, tout le monde le sait. Enfin, c'est pas chez nous, c'est partout. À partir de là, nous, comment on se positionne et quelle plus-value peut apporter en fait au territoire. Donc après, à partir de là, vous vous posez la question. Actuellement, mon modèle, qu'est-ce que j'apporte, à quoi je sers, enfin, il faut se poser la question.
C'est ça, en quoi je suis utile à mes adhérents.
De toute façon, derrière, vous avez Internet. Les gens réservent sur Internet. Les hébergements, maintenant, il y a Booking et tous les OTA. Donc de toute façon, il y en a 80% qui passeront, qui iront jamais chez vous. À partir de là, en fait, comment je me positionne et à quoi je sers. Donc, c'est à partir de là que vous commencez à vous dire quelle plus-value je peux apporter avec le territoire. et vous commencez à travailler avec vos pros sur une réflexion globale. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce que du coup, vous leur donnez la parole et ça permet d'avoir un feedback un petit peu sur ce qu'ils attendent de vous de l'office et de pouvoir le travailler. Après, moi, ces réflexions, je les ai eues aussi parce que voilà, je travaillais avec les OT, mais en étant prestataire sur ce qu'on en
est. De l'autre côté, oui, c'est ça.
Donc, moi, c'est des questions que je me suis déjà notamment posées. C'est qu'est-ce que moi, en tant que professionnel, j'attends de l'Office du tourisme et à quoi l'Office du tourisme peut me servir. Et là-dessus, vous avez plein de réflexions, de dire, distribuer mes flyers à l'Office, oui, bon, ok, si je peux le faire, je le fais. Mais en fait, fondamentalement, ce n'est pas de ça que j'attends de lui. Par contre, me fournir un
certain... En plus, pour un hôtelier qui, normalement, a déjà ses clients sur place, une fois qu'ils sont sur place...
Ça n'a aucun intérêt. Par contre, avoir une vraie réflexion sur comment derrière je peux travailler avec l'OT, qu'est-ce qu'il peut me fournir.
Où est-ce que je l'attends?
En termes de services, d'aide, après ça peut être des choses diverses et variées, sur des photos, sur des formations, sur des services, sur de la visibilité. Et là, on a une relation qui change un petit peu en fait, avec les professionnels.
J'allais y venir justement, ça fait une belle transition, c'est effectivement comment on fait pour penser sa destination comme une marque, comme une entreprise. Justement, on l'a bien compris, c'est en créant des services, d'être dans une logique de service. Tu parlais de prescription, créer des services pour les professionnels, des services qui apportent de la visibilité, des services liés au marketing, liés à l'ingénierie, à la réflexion, à la formation du coup, et à de l'accompagnement. Concrètement, si on prend un exemple, cette vision, tu l'as mise en œuvre à deux reprises, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
À la fois, quand dans ton passage, tu l'avais évoqué dans le Gard, donc en Provence-Occitanie, et puis tu viens de le boucler, ou c'est encore en cours de finalisation, là, actuellement, au sein de Ventoux Provence Tourisme. Tu peux nous raconter concrètement, avant de raconter la méthode, comment tu es parvenu à ça, c'est vraiment concrètement, il y a quoi derrière? On parle de quoi quand on dit penser sa destination comme une marque, créer des services, c'est quoi comme service? Donne-nous des exemples concrets de services et après, on parlera vraiment justement de comment vous l'avez co-construite, cette offre de services.
Les services, ils sont divers et variés, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément réinventé l'eau chaude. On est sur des services. Nous, quelles compétences on a? Quelles compétences on peut fédérer et qu'est-ce qu'on peut apporter? Donc, ça peut être des services. On a des ateliers de formation, tout simplement, avec des intervenants extérieurs, avec des thématiques. On a un accompagnement sur les réseaux sociaux. On a nos réseaux sociaux qui sont ouverts pour des pros qui veulent pouvoir communiquer dessus, utiliser nos réseaux sociaux et faire de la pub pour eux. On a les brochures, toujours, bien sûr. On a la visibilité sur les sites Internet. On a aussi la possibilité d'organiser des animations et des événements pour eux, de faire de la billetterie pour eux, moyennant commission, etc. Voilà, enfin, il en existe plein. Après, derrière, c'est des choses qu'on va pouvoir faire évoluer. On avait aussi des services, alors ça, c'était plus dans le cadre, on avait même des services juridiques et de suivi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait des sortes d'avocats, les gens, les professionnels pouvaient taper dedans pour leurs besoins. On avait des services digitaux, on avait des heures négociées avec un expert et hop, les professionnels pouvaient venir taper dedans. Donc en fait, les services, là, ils peuvent être sans fin, si vous voulez.
En fait, ils sont à la carte, surtout.
Ils sont à la carte. Et en fait, vraiment, ce qu'il faut casser, si vous voulez, c'est cette notion d'adhérent, de cotisation ou de partenaire. Je paye un droit d'entrée pour être à l'Office du tourisme. Non, l'Office du tourisme est un fournisseur de services et il travaille avec l'ensemble du tissu économique tel qu'il existe. Simplement, en fait, il leur fournit des services qui vont répondre à leurs besoins.
Donc, c'est-à-dire que si je n'ai pas besoin de me former aux réseaux sociaux, mais par contre, j'ai besoin d'un service de billetterie, je ne prends que le service de billetterie et je ne paye pas un coût global pour tout ça, alors que je n'en ai besoin que de 20% de SPAC. Quoi.
Exactement. Si je veux apparaître sur la brochure ou sur le site Internet, je vais payer un accès à la brochure et au site Internet, mais j'ai payé pour une prestation. Donc voilà, okay. Je ne vais pas payer pour une cotisation qui donne droit à tout et globalement à rien, et qui est quand même vraiment le sujet de friction entre les OT et les socio-professionnels.
Oui.
Ça, parce que derrière, c'est le professionnel qui paye, vu qu'il paye une cotisation quelque part, vu que ce n'est pas très cadré, il estime que ça lui donne droit à un certain nombre de choses. L'Office du tourisme, après, d'un autre côté, vu que ce n'est pas cadré, donc il perd un peu pied. Donc, globalement, comment on gère ça? Et ça crée des tensions où ouais, l'eau filtrée qui ne sert à rien, l'eau filtrée...
C'est surtout que ça leur donne une voix, ça leur donne cette sensation de bah, comme c'est souvent des associations, ça donne ce pouvoir en fait, d'avoir une voix à l'Assemblée Générale et du coup d'avoir son mot à dire. C'est ça en fait que ça crée.
Oui, oui. Oui,
chose qui n'existe moins quand on fait une prestation de service. Bah, en fait, comme tout client d'une entreprise, il n'a pas sa voix dans les décisions stratégiques de l'entreprise. Quoi.
Ou pas, parce que tous les offices du top ne sont pas associatifs.
Oui.
Il n'y a pas forcément la voix à l'Assemblée Générale. Mais c'est plutôt, si vous voulez, cette notion de droit d'entrée, en fait, de ticket d'entrée. On ne sait pas bien pourquoi on paye. Là, au moins, c'est très clair. C'est-à-dire que ça règle au moins un problème qui est de dire... Vous m'envoyez pas de monde, ou l'office de tourisme ne me sert à rien, machin. Attendez, madame, je vous explique quelque chose. Vous avez payé pour apparaître sur notre site internet. Vous apparaissez sur notre site internet.
La si mission, l'offre n'est pas assez attractive, ça, c'est autre chose. Ouais.
Le deal est rempli. Donc, si vous voulez, déjà, après, vous cassez un peu les codes là-dessus, et du coup, vous avez en fait un discours qui change un petit peu vis-à-vis de vos pros. Les pros, vous avez un discours séduisant vis-à-vis d'eux. Et en fait, il faut un peu de pédagogie au début, parce que c'est pareil, ça va dans les deux sens. Eux, ils n'ont pas l'habitude non plus. Donc, il faut faire un peu de pédagogie au début. Mais rapidement, en fait, ils s'y retrouvent. C'est-à-dire qu'à un moment, ils disent « Ah ben oui, ben tiens, ça, je veux ça. » Et après, ça parle. Nous, dans le gars, on avait des résultats qui étaient extrêmement bien. Hein.
On peut en parler maintenant. Hein. J'avais prévu de l'en parler après, mais on peut en parler maintenant. Effectivement, la première année de mise en place de ce système de service à la carte, parce que... Un des freins, parce que pour l'avoir connu, et quand j'ai quitté l'office de tourisme, il y avait justement cette transition qui était en train de se faire, c'est-à-dire vers une fin de cotisation ou vers une fin de... Enfin, on était un peu en entre-deux, une solution un peu hybride. Les résultats dans le Gard, que tu as connu, c'est que la première année, ça a fait plus 20% de chiffre d'affaires.
C'est ça. Ouais, directement, parce qu'en fait, on allait capter de nouveaux... Enfin, c'est pas des nouveaux adhérents, mais des nouveaux professionnels qui, à un moment donné, par principe même, et puis alors moi je ne leur en veux pas parce que j'aurais peut-être fait pareil, ne voulaient pas cotiser à l'office du tourisme parce que ça ne sert à rien, s'ils ne se retrouvaient pas, c'est des subventions publiques, etc. Alors qu'en fait on a changé la démarche et on leur a proposé des services. Et là, ah ouais, bah, tiens, mais ça répond à ma problématique. Donc hop, on peut y aller. Après, ça dépend aussi de la typologie d'hébergeurs, de professionnels que vous avez sur votre territoire.
Oui.
Si vous avez un grand parc de loueurs meublés essentiellement, bon, il faut avoir une approche un peu différente. La difficulté après de tout ça, là où ça se construit au long cours, c'est que chaque service ne peut pas... vous ne pouvez pas avoir un catalogue qui est trop générique. Il faut commencer par ça. Mais après, vous avez vraiment des besoins spécifiques en fonction des catégories socio-professionnelles. Mmh. C'est aussi ça un peu qui est excitant dans ce genre de projet-là, c'est qu'après, derrière...
Mais presque sur du sur-mesure, quoi.
C'est ça, et c'est absolument infini après.
Ouais. Et d'ailleurs, donc, première année, plus de 20% de chiffre d'affaires, et deuxième année... plus 35%.
C'est ça.
C'est ce qu'on a échangé la première fois. En deux ans, ça a quand même sacrément augmenté grâce à cette nouvelle mise en place.
Oui.
Alors, depuis ton départ, est-ce que tu sais si c'est la progression continue ou est-ce que ça a stagné?
Je ne sais pas trop. Ça n'a pas baissé, ça c'est sûr.
OK.
Ça c'est sûr. Après, est-ce que ça a augmenté? Ça, on arrive aussi sur des...
Voilà, il y a des paliers.
On arrive sur des plafonds. Voilà. Par contre, ici, je m'aperçois que là, ici, sur Ventoux Provence, sur une première année, on ne fera pas forcément mieux. On ne fera pas moins, mais on ne fera pas mieux. Parce que derrière, il y a plus de pros et il y a un peu plus de pédagogie. On a beaucoup plus de loueurs meublés aussi. On a beaucoup plus de concurrence d'Airbnb. Donc voilà, c'est des choses qui vont se construire, en fait, qui vont se développer au fur et à mesure. Moi, je ne suis absolument pas inquiet là-dessus. Et,
d'accord.
Je sais que ça fonctionne. Les échos qu'on en a, c'est que les pros... c'est super, c'est vraiment ça qu'on veut. Après, il faut aussi que les choses elles se mettent en place, elles se créent. Ça rentre après dans une dynamique globale. C'est pas non plus la baguette magique et la clé miraculeuse.
Mais j'entends tout à fait parce que moi-même, quand j'étais en office de tourisme, je voyais bien que certains voulaient juste, par exemple, être mieux formés à Instagram, par exemple, et ça leur aurait suffi comme prestation. C'était vraiment leur défi à ce moment-là. Donc, effectivement, c'est... Et puis, justement, à ce moment-là, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, l'objectif peut changer. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, je peux changer de service. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que cette année, mon objectif, c'est peut-être me former à Instagram, mais l'année prochaine, ça va peut-être aussi de commercialiser mon offre différemment, etc. Donc, en fait, soit on va cumuler les services ou soit on va interchanger les services. Et c'est ça qui peut être intéressant aussi. Alors, du coup, j'aimerais juste parler de comment. Comment est-ce que tu es parvenu par deux fois à mettre ça en place? Quelle est la méthodologie? Alors, on en a parlé, il y a une approche vraiment de co-construction de cette offre de service à la carte. Je trouve que le projet, il est quand même assez impressionnant dans le sens où tu as réussi à mobiliser 60 personnes, 60 participants à ce projet de co-construction. Juste à la phase de co-construction, je trouve ça énorme. Parce que c'est vraiment énorme comme échantillon, je trouve. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette méthode, cette approche qui, grosso modo, me parle parce que c'est clairement basé sur une approche de design thinking. En fait, vous avez vraiment fait de l'intelligence collective, du co-développement. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément et j'aimerais vraiment que tu m'en parles.
Alors, déjà, il faut. C'est pas un projet qui peut se monter tout seul. C'est pas quelque chose que vous montez dans votre bureau en disant tiens, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Il faut avoir une première approche avec un certain nombre de services et d'offres. La difficulté, l'écueil que vous allez rencontrer, c'est que vous arrivez sur des choses nouvelles. Si vous n'avez pas un peu préparé le terrain en amont, vous allez retrouver face à des professionnels qui ne vont pas avoir d'idées. En fait, vous allez accoucher d'une souris. Donc là, ça devient complexe. Donc il faut déjà avoir en amont fait un travail préparatoire en équipe pour dire tiens, quel service je mets en place. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Et aussi la prise en compte économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, passer d'un modèle d'adhésion, ça vous assure un petit matelas. Il ne faut pas non plus qu'on bouffe la grenouille de suite, si vous voulez, et qu'en fait, on perde ce matelas parce que derrière, tout n'est pas compris. Donc, c'est globalement, comment est-ce que je fais pour assurer en fait, le matelas et comment je fais pour aller au-delà en fait, du matelas ?
Donc, finalement, c'est plus la co-construction, c'était plus une phase de transition. En fait. C'est-à-dire que On arrive dans la phase de transition, commencer à faire changer les mentalités, en fait.
C'est ça. En fait, sur la co-construction, derrière, nous, on a fait des ateliers avec les pros de dire, tiens, quel départ un peu neutre. Comment vous imaginez un peu l'office du tourisme, en fait, à quoi ça sert, vous ? Vous avez quelques idées qui sortent. Voilà. Et là, en général, je mets les pieds dans le plan en disant, donc, l'office du tourisme, si demain, il veut se positionner vraiment comme un fournisseur de services, et donc, il n'y a plus d'adhésion comme fournisseur de service. Est-ce que ça vous conviendrait ? Là, vous avez un premier blanc. Et puis après, vous commencez à ouvrir un débat. Et puis là, après, derrière, c'est là que vous commencez à sortir un petit peu les offres et faire un débat. Je dis voilà ce qui existe globalement, voilà ce qu'on a pensé. Ça. Oui, ça. Et puis après, derrière, vous avez d'autres idées qui sont là. Mais oui, on pourrait peut-être penser à ça. Donc, et vous sortez en fait d'une réunion en général qui est assez riche. Qui peut durer 3 heures, hein, franchement.
Oui, ces ateliers-là, ils durent assez longtemps en général.
Qui peut durer 3 heures. Et vous partez avec un premier package, quoi, si vous voulez, avec un premier paquet d'idées. Nous, après, derrière, l'idée, c'est on retrie ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Il faut essayer de le mettre aussi en phase avec nos propres stratégies. Et à partir de là, on fait un deuxième atelier, un peu plus formel, où on présente en fait les services. Et là, on commence à mettre des prix en face. Quel prix vous seriez prêt à payer ? Donc on met des prix en face, on fait valider. On a souvent des surprises.
Il y en a qui mettraient plus cher que ce que vous auriez imaginé. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Hein.
Ils mettraient rarement moins, par contre, régulièrement, ils seraient prêts à mettre plus.
Parce qu'il y a de la valeur. En fait, là, on arrive à connaître la valeur qu'ils donnent à ce service-là. Et ça, c'est incroyable.
C'est ça. Et ils seraient souvent prêts à mettre plus. Et c'est là, après nous, on travaille aussi en interne, si vous voulez, parce que derrière, à un moment donné, l'office de n'a pas cette culture, si vous voulez, de rentabilité de business, de dire, les choses ont une valeur. À un moment donné, il faut valoriser votre travail. Mmh. Et là, on arrive à construire, en fait, une offre qui est à peu près cohérente. Il faut commencer par le début. La première année, c'est forcément des choses assez simples, parce que au-delà du fait qu'il faut les travailler avec les pros, après, il faut les mettre en place de manière opérationnelle, parce que ça nécessite en interne aussi
une restructuration.
Voilà, une organisation qui est un petit peu différente, parce que vous n'avez plus juste votre chargé de partenariat. Vous êtes vraiment sur des dossiers qui sont extrêmement transversaux. Donc, il faut quand même un peu d'agilité, si vous voulez, pour réussir à mettre tout ça en œuvre. Et puis après, vous êtes dans votre phase de commercialisation des services. Qui peut être flippante, en fait, pour les agents au début, pour les salariés, parce que...
Ils doivent apprendre à se vendre.
Et puis, ça rentre moins, parce qu'en fait, tout est un peu dilué, si vous voulez, sur l'année. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez plus une... Il ne faut plus que vous preniez vos cotisations entre le 1er janvier et le 31 décembre. Là, vous avez l'année, en fait, pour prendre vos services. Donc, on gère les priorités avec de l'argent qui rentre moins, qui rentre un peu différemment. Donc là, après, c'est du coaching, du management. Après, derrière, l'idée, c'est aussi de rappeler les pros, faire de la pédagogie, leur expliquer. Voilà. Et globalement, ça se passe bien. Globalement, ça se passe bien. Et puis derrière, on arrive à mettre les choses en place. Bon, là, je vois, là, sur les derniers chiffres, on n'a pas fini encore la campagne, mais sur l'Antoine-Provence, on va être au moins équivalent à ce qu'on était l'année dernière et l'année d'avant. Il y a pas de, j'ai aucune inquiétude là-dessus.
Et est-ce qu'en parallèle, bah justement, vous avez sondé un peu le niveau de satisfaction? Est-ce que ce niveau de satisfaction, parce que c'est là aussi que le critère est intéressant d'aller étudier, c'est est-ce que les sociopros se sentent plus, sont plus satisfaits du coup des services proposés par l'Office de tourisme du coup?
Alors, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas satisfaire tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a qui vont se sentir lésés. C'est-à-dire que vous sortez du cadre où, à un moment donné, vous aviez l'hôtel qui va payer X euros par chambre, multiplié par chambre, qui faisait un montant, et le petit prestataire lambda qui prenait sa cotisation à X euros pour paraître. Là, en fait, vous allez avoir quelque chose qui va s'inverser un peu. C'est-à-dire que vous allez avoir le gros qui va payer un peu moins parce que, alors, c'est là l'art de la chose et la subtilité, qui, en tout cas, en façade, va payer un peu moins. Et vous pouvez vous retrouver, en fait, avec un prestataire qui va se retrouver à payer un peu plus, si vous voulez, pour équilibrer par rapport à ses services. Mais bon, globalement, ça fonctionne bien. Si vous voulez, le gros, l'objectif, c'est de faire monter le ticket moyen.
C'est ce que j'allais dire, c'est le panier moyen qui doit augmenter.
Donc, à un moment donné, si vous voulez, l'enjeu là-dessus, c'est d'aller leur vendre des services complémentaires pour faire monter le ticket. Et là, on s'est plutôt bien débrouillé parce que sur les gros porteurs, oui, on a amélioré le ticket moyen. Après, effectivement, le petit loueur meublé ou le prestataire, oui, il peut y avoir un petit écart, c'est clair. Après, c'est pas des écarts, c'est pas non plus, on passe pas du simple au double, mais il peut y avoir des petits écarts qu'il faut expliquer. Mais comme dans tout système, à un moment donné, il y a forcément des avantages et des inconvénients. Vous ne pouvez pas satisfaire 100% des personnes. C'est pas possible. Mais globalement, ça se passe bien. Enfin, je veux dire, sur le moment, quand vous en
avez... Et du coup, il y a certains services qui ne sont pas renouvelables. Je pense à la formation. Autant, effectivement, une présence sur le web, on peut renouveler ce service d'une année à l'autre. Ouais. Mais effectivement, il y a des services qui ne se renouvellent pas. Du coup, il y a vraiment cette volonté d'aller... à la fois inviter les clients existants à, parce que du coup c'est des clients, hein, c'est plus des adhérents, c'est des clients, à découvrir d'autres services, en fait c'est sans arrêt refaire part des services à la carte, et puis aller en chercher des nouveaux. Donc il y a sans arrêt ce côté fidéliser, donner envie, et du coup il y a un espèce de suivi client en fait à faire en fonction de son évolution et de ses projets d'une année à l'autre. Justement. Oui. Donc là, en fait, on devient, finalement, j'entends presque que les agents des offices de tourisme deviennent des chargés de clientèle.
Ben, c'est ça.
En fait.
C'est ça, ni plus ni moins. Mais au sens large, parce qu'après, derrière, si vous voulez, tout ça amène d'autres réflexions beaucoup plus globales. Et en fait, vous apercevez rapidement que si vous mettez ça en cohérence avec un schéma d'accueil ou quoi, votre partenariat devient en fait la colonne vertébrale de toute votre organisation touristique. Et derrière, à partir de là, vous pouvez construire plein de choses avec vos bureaux. Et vos bureaux, et donc c'est ce qu'on est en train de faire, vous les faites évoluer. C'est-à-dire que vous n'êtes plus sur des clients qui attendent, vous êtes plus sur des offices qui attendent des clients, qui ne viennent pas, mais vous devenez des prescripteurs qui vont aller au-devant de leur professionnel pour leur proposer des services, pour pouvoir les accompagner, faire de l'hospitalité. Et vous avez, vous avez le métier, en fait, le métier qui change et qui évolue. En tant que manager, c'est toujours un peu stressant parce qu'à un moment donné, vous dites comment est-ce que ça va être pris, donc il faut y aller de manière un peu touchy, si vous voulez. Mais globalement, c'est bien perçu par les équipes aussi. Après, derrière, il y a des temps d'adaptation parce que vous ne passez pas de conseiller en séjour à vendeur comme ça en claquant des doigts. Au-delà de la technique, même si vous voulez, dans l'approche intellectuelle, dans l'approche culturelle, donc il faut l'amener petit à petit parce que derrière, ma vision. On n'est pas une entreprise qui est là pour faire du bénéfice. On fait du bénéfice, mais c'est du bénéfice qu'on remet dans l'économie locale. On reste un service public. Donc, à un moment donné, je ne veux pas qu'on se positionne non plus comme un professionnel pur et dur.
Qui fait que du chiffre d'affaires pour faire du bénéfice. Oui, je comprends.
Et là, uniquement pour gérer de l'argent. Parce que là, par contre, pour le coup, on sort de notre mission. Sur notre mission et la relation avec les professionnels, là, on n'est plus dans quelque chose où on coordonne. on est dans quelque chose ou quelque part où on devient un peu concurrent. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment de restructurer et de faire en sorte d'avoir un projet dans lequel on intègre les professionnels avec eux pour pouvoir mener la destination ailleurs. Et moi, ma vision, c'est on part du professionnel pour valoriser la destination et non pas de la destination pour valoriser le professionnel.
D'accord. Ok. Oui, c'est-à-dire qu'on va communiquer à l'extérieur sur finalement tout le catalogue de prestations qu'on a, d'activités, de prestations qu'on a chez nous. Et le job, c'est vraiment d'aller valoriser ces prestations-là à l'extérieur. Ok.
90. On sait que sur un territoire, il n'y a que 10% des clients qui rentrent dans un office du tourisme. Donc ça veut dire qu'il y a 90% des clients qui sont chez les pros. Donc pourquoi aller s'embêter à distribuer des docs, etc. Vaut mieux travailler avec eux. Directement avec eux, leur fournir des services, de l'aide, justement, pour pouvoir mieux accueillir leurs clients, mieux promouvoir, nous-mêmes en interne, pour pouvoir mieux passer les informations et travailler pour eux, parce que c'est eux qui font la destination. Ou alors, derrière, il faut s'appeler Saint-Tropez ou Courchevel et avoir des marques qui sont extrêmement fortes, où là, vous avez c'est la destination vraiment qui va faire le job. Nous, on est sur des destinations, alors le Ventoux, encore que c'est un peu connu, on pourrait débattre là-dessus, mais la plupart, il y a 99% des destinations françaises. Vous ne les connaissez pas, enfin, ce n'est pas la marque.
Oui, ce n'est pas une marque. On ne vient pas pour la destination forcément. Ouais.
Voilà, c'est le professionnel qui va faire le job, qui va vous amener le client. Donc, il faut pouvoir travailler avec eux et leur amener les outils pour faire venir les clients. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je conçois.
Okay. Et sur l'approche, la méthode de co-construction de l'offre de service, sur les 60 participants que vous avez eus sur les ateliers, combien d'entre eux ont été convertis? Du coup, est-ce qu'ils ont juste participé et puis certains n'ont pas suivi? Ou est-ce que c'est 100% des participants qui finalement ont suivi aussi le process?
Ils sont tous venus, ils ont tous suivi le process. Ce qui est extrêmement intéressant, par contre, c'est qu'on en avait plus de la moitié qui n'étaient pas cotisés, qui n'étaient pas partenaires de l'Office du tourisme avant.
D'accord. Donc déjà, il y avait, ce qui est beau, c'est que parmi eux, il y avait déjà donc une volonté de faire changer les choses. Et donc, il y avait un espoir, en fait, qu'il y ait quelque chose qui a un résultat qui répond à leurs attentes. Donc ça, donc ils étaient quand même plutôt optimistes. Donc ça, c'est déjà chouette. Et puis, visiblement, ça a répondu à leurs attentes puisqu'ils ont rejoint. Ok.
C'est ça.
Ok.
C'est vraiment une démarche qu'il faut faire sans préjuger aucun. Mais vraiment sans préjuger aucun. Okay. Voilà. Un professionnel, s'il n'est pas adhérent à l'Office du tourisme, il y a plein de raisons. Ou parce qu'il n'y voit pas son intérêt.
Il faut les comprendre.
Voilà. Mais à un moment donné, il ne faut pas se couper de ces gens-là. Donc il faut vraiment travailler avec tout le monde.
Oui, d'accord. Et je vous ai fait accompagner sur ces ateliers. Il y a eu un facilitateur, un professionnel. Non. C'est Leslie qui a mené la barque.
Ah oui, là toute la méthodologie, machin, ça, c'est vraiment du « dites-moi ».
Ah ok, d'accord, super. Tu as été formé à ça? Tu t'es formé, toi, à ça?
Je me suis auto-formé, en fait, à ça, d'accord. À force de participer à des ateliers, à des conférences, à des travaux comme ça, après, derrière… On peut toujours s'améliorer, mais dans la démarche, non, la méthodo pour arriver à ça, c'est moi qui j'ai mis en place ma propre méthodo.
D'accord, ok, super.
Qui pourrait se décliner ailleurs, il n'y a pas de, pas de souci. Mais oui, il n'y a pas de, non, j'ai pas fait appel à un prestataire extérieur, mais ça pourrait. Après, actuellement, si vous voulez, c'est un petit peu novateur, donc à un moment donné, je pense que des consultants externes, si vous voulez, qui ont cette vision-là. On n'est pas encore tout à fait. Et si, ils vont pouvoir apporter, aider sur la méthodologie, si vous voulez.
Oui, j'allais dire, les facilitateurs d'ateliers d'intelligence collective, ils n'ont pas à être experts du sujet. Non. Ils sont juste là pour vraiment cadrer d'atelier, ramener l'objectif toujours au centre des discussions et éviter que ça parte dans tous les sens. En fait, c'est plutôt le rôle de ce facilitateur-là et de pousser un peu à la créativité parce que c'est là où émergent les meilleures idées. Ok, super. Et du coup, demain, c'est quoi les prochains challenges ou les différents projets en termes de stratégie de marque? Du coup, est-ce que c'est d'aller chercher des nouveaux partenariats avec d'autres marques, pour le coup, et de travailler, comment on travaille la promotion de Ventoux Provence Tourisme avec cette nouvelle dynamique?
Alors, on la travaille de deux façons. Déjà, à un moment donné, quel est le positionnement? Nous, à un moment donné, on retravaille sur les habitants et la clientèle de proximité. Par rapport à du RSE, par rapport à plein de choses, on a aussi beaucoup de producteurs locaux, on a vraiment un riche vivier. Donc on a une stratégie aussi qui est poussée vers la promotion des savoir-faire locaux, des produits locaux. Donc on développe des boutiques, des animations avec les pros, etc. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Nos bureaux, on a un schéma d'accueil qui est en train de se mettre en place, enfin, qui a été validé, maintenant on est entré dans la phase opérationnelle, si vous voulez, où on replace nos bureaux d'information touristique au cœur du village. En fait, on leur redonne un peu la mission initiale qu'ils avaient de syndicat, quand ils étaient syndicat d'initiative, mais avec les outils modernes et, de nouvelles compétences. Donc on essaie de les retravailler là-dessus, avec une évolution des métiers, qu'on appelle de managers locaux d'hospitalité, nous, où vraiment on prend en compte cette partie de hospitalité, médiation, prescription, avec des boutiques qui deviennent des lieux de visite, avec des offices qui deviennent des lieux de visite. Voilà, certains seraient des boutiques, d'autres plus des lieux d'animation. Enfin, vraiment, ils ont des missions un petit peu variées.
L'idée, c'est des pôles, en fait, c'est des pôles.
C'est des pôles
d'accueil, en fait.
Ouais, voilà, on les a regroupés par pôle. Et puis chaque bureau, en fait, va avoir sa propre spécificité. Alors après, c'est du travail qu'on met dans long terme. On ne peut pas tout claquer d'un doigt et le faire tous. Donc, on le fait par phase, si vous voulez. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de rapporter, en fait, du business dans les OT, avec des OT qui s'adressent non plus aux touristes, mais qui s'adressent vraiment à tout, avec des services publics. On a de la billetterie, on est en train de travailler même sur de la billetterie pour le Festival d'Avignon, les Corrigidors, enfin vraiment sur des choses extrêmement locales pour les locaux et pour les touristes. On travaille sur donc effectivement des boutiques, des produits locaux à la fois pour les touristes et pour les clients. On est en train de créer un guichet SNCF dans un
génial.
Pour pouvoir vendre des trucs. On fait relais colis aussi dans un endroit parce qu'à un moment donné, il y a un manque. Donc, on essaie vraiment de s'adapter, de travailler avec les collectivités sur comment est-ce qu'on peut développer ces bureaux. Quoi. Avec, effectivement, à un moment donné, un souci malgré tout de rentabilité minimale parce que derrière, les budgets sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne génère pas des revenus supplémentaires, il y a des bureaux qui sont fatalement voués à fermer. Parce que pas assez de fréquentation, trop de charges qui ne peuvent pas être assumées juste par l'office du tourisme. Donc, si on ne veut pas fermer ces bureaux-là, il faut qu'on s'inscrive vraiment dans une démarche en fait de business, de redéveloppement, pour pouvoir continuer à apporter un service public le plus qualitatif possible et continuer à avoir des offices qui fassent sens au niveau local.
Et justement, je me posais la question, lieu de vie, du boutique, parfois, on voit des offices de tourisme qui sont ancrés au sein d'un lieu, d'un site, par exemple, de visite, au sein d'un musée, au sein d'un producteur qui a, voilà, ça permet en fait de drainer du flux à la fois pour, ou profiter plutôt à l'inverse, du flux d'un professionnel et se dire, ben voilà, c'est la locomotive, ou typiquement en gare, ou typiquement, voilà, et donc à ce moment-là, de partager, pourquoi pas, en tout cas de mutualiser certains frais. J'aime beaucoup cette notion de manager local, je trouve ça vraiment intéressant, parce que du coup, ça m'amène à la question, c'est que du coup, les équipes internes deviennent des spécialistes deviennent des experts ou des spécialistes d'un point en particulier pour les professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont chaque professionnel du territoire sait vers qui se tourner si c'est par exemple pour du marketing ou etc.
Il se retourne vers son bureau d'appartenance initiale.
D'accord. Ok.
Et à partir de là, en fait, tout l'enjeu là cette année, dans la première phase. Structure les choses, ça marchera plein pot à partir de 2025. Chaque office, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est un centre de profit local, si vous voulez. Vous avez le back-office, vous avez le siège qui produit, et en fait, vous avez les services locaux, les bureaux qui vendent, assurent la promotion, la communication et autres, avec un back-office qui est vraiment un service support. Donc, vraiment, on essaie de remettre les offices comme un acteur local et le relais local, exactement.
Ouais, d'accord. Okay.
On adhère aussi aux associations de commerçants, aux clubs d'entreprise, voilà, justement, par rapport à tout ça. Et on a une dynamique extrêmement active et qui prend, par contre, une part de plus en plus importante, et ça, j'en suis extrêmement satisfait, c'est qu'on travaille beaucoup avec les entreprises sur la valorisation des produits locaux, avec des ventes dans les entreprises, mais aussi, en fait, des bons cadeaux en fin d'année ou des paniers, etc., que nous fabriquons pour les entreprises locales. Alors, vos locales, ça peut être aussi extraterritorial, mais enfin, qui reste quand même dans un secteur géographique extrêmement proche, où on met en avant nos acteurs locaux, nos producteurs locaux, au travers de ces box. Donc là, par contre, voilà, ça permet du circuit court efficace, et on est sur du gagnant-gagnant-gagnant pour tous, avec des entreprises qui ont de plus en plus des politiques RSE, et vraiment, les offices de tourisme ont tout intérêt à surfer sur cette vague un petit peu RSE, à la fois pour eux, et pour leurs prestataires, ne pas voir juste le RSE comme une contrainte pour eux.
Mais plus comme une opportunité.
Voilà, mais vraiment comme une opportunité de développement. Et après, tout dépend des stratégies, en fait, des stratégies de chacun. C'est-à-dire les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place dans une station de ski, ce ne sera pas les mêmes que ceux que vous allez avoir chez nous. On est sur des problématiques qui sont un peu différentes. Mais en revanche, ce travail collaboratif avec les pros, ça, c'est vraiment le...
Et cette partie médiation, et je pense que c'est peut-être la dernière question que je vais te poser, cette partie médiation, elle me parle parce qu'effectivement, c'est super intéressant de dire que chaque territoire a une singularité. Quand on est dans des destinations type montagne ou rurale, il y a cette médiation avec le monde agricole. L'agritourisme, c'est un vrai sujet, tu l'as connu. Hein. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Et quel est qui intervient dans ce... Qui est médiateur au sein de cette nouvelle organisation? C'est plutôt... Le siège, le support, c'est-à-dire toi, typiquement, c'est la direction. Qui est-ce qui fait ce rôle de médiateur entre les différents univers qui régissent un territoire?
Alors, c'est moi qui coordonne, si vous voulez, mais par contre, derrière, c'est chaque bureau, en fait, on a un certain nombre de thématiques. Il y a des choses, par exemple, sur des informations préfectorales, on sait que ça va arriver. Donc là, nous, en fait, toute la difficulté là-dessus, c'est entre le moment où l'info tombe et le moment où elle est diffusée. C'est là qu'il y a des... Donc là, on travaille sur des process un peu précis pour pouvoir la diffuser au mieux. Mais c'est assez complexe. C'est vraiment assez complexe parce que derrière, il faudrait une instantanéité qu'on a forcément du mal à avoir. Donc on progresse, on essaie d'anticiper, etc. Par contre, après, théoriquement, typiquement, le patou, de toute façon, problématique de montagne qu'on a chez nous aussi, on définit en fait en amont, on travaille avec le parc du Ventoux aussi, sur... quelles sont les grosses problématiques en fait, qu'on nous demande, nous, à l'accueil, mais aussi que les professionnels nous demandent aussi. Parce que derrière, dans la médiation, il y a aussi des pros qui les appellent. Est-ce que vous avez l'information? Oui, non. Enfin, en général, souvent, on l'a.
Bien sûr.
Donc, on essaie d'anticiper, en fait, avec des programmes de formation, deux, trois dans l'année, avec le parc du Ventoux, mais ça peut être d'autres, on le fait avec l'ONF, etc. Mmh. Justement, sur des thématiques spécifiques, pour pouvoir justement anticiper la saison avec des visites sur le terrain, des explications avec les professionnels, justement pour pouvoir diffuser la meilleure information possible.
D'accord, ok. C'est ce qu'on avait mis en place aussi chez nous avec des groupes de maraudes en fait, qui venaient un peu expliquer et éduquer un peu le randonneur qui parfois n'a pas conscience de tout ça. Et c'est ok en fait de se dire, voilà, et c'est le rôle un peu des acteurs locaux effectivement de faire ce rôle de médiateur-formateur.
Nous, attention, on a des éco-gardes, le Ventoux a des éco-gardes qui font ce rôle de médiation de compteur. Nous, vraiment, c'est sur les offices du tourisme, avoir la bonne information à diffuser. Mmh. C'est pas nous qui allons sur le terrain pour... c'est pas nous qui allons faire les maraudes.
Vous faites venir l'information. Okay.
C'est les maraudeurs qui nous font plutôt redescendre les informations et nous informent sur les bonnes pratiques, la réglementation et tous les gestes à tenir.
Mais typiquement, je me souviens qu'on essayait autant que possible d'avoir les infos en temps réel. Et ça, je sais qu'il y avait des projets de création d'applications de où se déplacent les bergers avec leurs troupeaux en saison, par exemple. Et se dire, là, par exemple, ce côté-là de la montagne, actuellement, il est libre de jusqu'à telle altitude, par exemple. Voilà. Ok. Ce côté médiation, il m'intéressait parce qu'on n'en a pas assez parlé. Mais voilà. Mais la partie prescription, super. Merci Leslie. Est-ce qu'il y a un dernier mot peut-être à ajouter ou un conseil pour toutes les destinations, tous les offices de tourisme qui voudraient mais qui n'osent pas se lancer? Ce serait, quel est le déclic à avoir? Quelle est l'approche à avoir pour oser se lancer comme tu l'as fait?
Parlez avec vos professionnels. Prenez un peu de recul. Parlez avec vos professionnels. Les professionnels ne sont pas juste des gens qui sont là pour râler parce que c'est souvent l'image qu'ils ont. Ils viennent à l'office juste. C'est aussi des gens en fait, qui ont des besoins, qui ont des visions. Justifié ou pas, mais en tout cas, travailler avec eux, et ne serait-ce que le simple fait des fois de les écouter, d'échanger avec eux, vous allez avoir la relation avec eux qui va changer, ça va pouvoir vous permettre de débloquer un certain nombre de sujets. Mais surtout, imaginez à un moment donné, imaginez que votre office du tourisme est une entreprise, que vous êtes là en fait pour générer du business sur votre territoire, même si ce n'est pas pour vous, c'est pour votre territoire, et positionnez-vous vraiment avec une démarche un peu de chef d'entreprise qui est là pour développer une affaire. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que du coup, vous avez plein de gens qui travaillent avec vous, des professionnels, mais ayez cette ouverture entrepreneuriale, cherchez à comprendre quelle valeur ajoutée vous allez pouvoir amener à vos professionnels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un état de fait, il y a des missions, mais comme tout, il faut savoir se remettre en question, évoluer. Et voilà, donc remettez-vous en question, sortez des préjugés qu'on a tous à un moment donné, sortez des préjugés, et cherchez vraiment à réfléchissez à la valeur ajoutée que vous pouvez amener à votre territoire. Et à partir de là, vous verrez les choses, vous allez les débloquer quasi naturellement.
Est-ce que ça veut dire qu'au démarrage, tu as fait une sorte d'audit interne des forces de l'office, peut-être des faiblesses, mais surtout des forces en présence? Et est-ce que ça veut dire que tu as identifié qu'il fallait aller en chercher des nouvelles, peut-être, ou capitaliser sur ces forces et voir les multiplier? Ça a commencé par cette espèce d'état de fait interne avant d'aller créer cette méthodologie de co-construction?
Ouais, il faut identifier.
Ça fait partie du travail préparatoire, justement, que tu as évoqué?
Oui, ça fait partie du travail préparatoire, sachant qu'en fait, il y a déjà des gens qui ont ces compétences-là. Après, derrière, toute la difficulté, c'est de réussir à travailler en transversalité. C'est au-delà d'aller trouver de nouvelles compétences, c'est surtout de trouver de la transversalité à un moment donné pour pouvoir développer cette relation avec les pros. La relation avec les pros, ce n'est pas tant là qu'il y a besoin de compétences supplémentaires, c'est plus après vraiment sur l'opérationnel. Donc, à un moment donné, il faut aussi travailler et proposer des services que vous êtes en capacité
de fournir.
Parce que derrière, c'est une catastrophe. Vous savez que les réseaux sociaux, si vous vendez des prestations réseaux sociaux, il n'y a que 52 semaines dans l'année. Donc, vous n'allez pas pouvoir en vendre 500 par an. Donc, c'est tous ces aspects-là. Et vraiment être extrêmement précis sur ce que je propose et la mise en œuvre opérationnelle. Après, des compétences derrière, c'est aussi l'évolution des gens. Puis des fois, des nouveaux projets, à un moment donné, quand vous avez des gens qui sont là depuis longtemps, ça permet aussi de s'ouvrir et d'avoir une réflexion qui est un petit peu différente.
De leur offrir des nouvelles opportunités d'évolution, justement, au sein de leur propre
Exactement.
Mission.
Ouais. Et après, c'est au manager d'accompagner ça avec de la bienveillance, de l'accompagnement et beaucoup de motivation. Et après, à partir de là, ça fonctionne en général.
Et je te rejoins vraiment sur cette notion d'aller écouter ce que les professionnels du territoire ont à dire. Et ma dernière question, c'est comment tu l'as fait? C'est toi qui es allé à leur rencontre ou c'est toi qui les a fait venir? Enfin, qu'est-ce qu'il en ressort? Généralement, si tu avais un conseil, c'est il faut aller à leur rencontre ou finalement les appeler et faire quelque chose de collectif. C'était quoi la meilleure approche?
Pour faire quelque chose de collectif parce que déjà, ils aiment bien se réunir entre eux aussi, chose qu'ils n'ont pas le temps de faire. Donc là-dessus, la vraie valeur ajoutée de l'Office du Tourisme, c'est aussi ça, c'est de pouvoir mettre en relation les professionnels entre eux de manière extrêmement aisée et extrêmement simple. Par exemple, un des services qu'on propose, c'est d'organiser des éducteurs pour les pros, des pros pour les autres pros. Et ça cartonne parce qu'en fait, les gens, ils sont là, ah ben oui, c'est un temps précieux qui est gagné. Donc à partir de là, déjà, vous avez une espèce d'intelligence collective qui se met en place parce que les gens discutent entre eux. Déjà, rien que ce travail-là, déjà, vous avez gagné parce que derrière, ils réfléchissent à du business. Ça vous permet de discuter. Et puis après, il faut des moments un peu plus formels que vous invitez les gens en fait, à venir échanger. Voilà, c'est tout. Mais il faut plutôt être dans une démarche. Il faut les rencontrer, il faut les faire venir. En fait, derrière, il faut qu'ils se sentent utiles.
Ouais. Non, mais c'est super intéressant parce qu'en plus, les éducteurs, c'est un sujet que je prépare pour un prochain podcast. Et en fait, j'aime beaucoup l'idée que les éducteurs, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ils le sauront bientôt, c'est vraiment des rendez-vous forts. Et je trouve que c'est très malin d'utiliser ce type de rendez-vous et d'en faire une opportunité finalement d'échange, de rencontre, plutôt que les inviter à une réunion comme ça. En fait, non. Il y a un autre événement qui est organisé et c'est pendant cet événement qu'on va échanger, qu'on va poser des questions. Et ça, je trouve ça hyper malin finalement. Parce que du coup, ils n'ont pas l'impression de venir pour parler. Ils viennent pour découvrir le territoire différemment. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on en profite pour poser des questions. Et ça, je trouve ça très malin.
Nous, quand on a fait notre SADI, la première question qu'on a posée, c'est qu'est-ce que vous attendez de l'Office du Tourisme? La question qui est ressortie tout de suite, de manière quasi unanime, c'est se retrouver faire des apéros. C'est pas pour faire l'apéro, mais c'était en fait un mode un peu Rotary Club. C'est-à-dire échanger, avoir des choses où vous créez du lien, où les gens peuvent se rencontrer et discuter. Et c'est vraiment là-dessus qu'ils attendent l'Office du Tourisme.
Ok, être le coordinateur justement d'événements, de ce genre d'événements.
C'est ça, c'est pas d'aller faire des salons à l'autre bout du monde où ils vont vous attendre, ça va être plutôt d'aller travailler sur ce genre de choses qui sont...
Pour de travailler pour le territoire en fait,
c'est ça,
au sein du territoire.
Et pour le territoire, en plus ça va être en place.
Ok, Super. Eh ben, merci beaucoup, Leslie. Merci pour cet échange. On aurait encore plein de choses à dire, à mon avis. On pourrait bifurquer sur les éductours, typiquement. Enfin, voilà, je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup. Merci pour ce temps, pour ce partage. Et je sais qu'aujourd'hui, on peut te suivre facilement sur LinkedIn, notamment, où tu es plutôt actif et où, justement, tu aimes partager. Je sais que tu participes à d'autres ateliers où tu viens partager cette co-construction que tu as mis en place pour essayer partager ton retour d'expérience, comme tu viens de le faire sur le podcast. Donc, j'espère que ce podcast sera aussi un des leviers qui aidera à faire porter ce message. Merci beaucoup, Leslie. Je te souhaite une belle fin de journée et hâte de suivre la suite des aventures sur LinkedIn.
Merci, Yed, et puis à bientôt.
À bientôt. Et voilà, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu, que mon échange avec Leslie vous a inspiré, que vous soyez du côté des socio-professionnels de votre destination ou que vous soyez au cœur de la destination touristique au sein d'un office de tourisme, par exemple. J'espère que ces quelques pistes vous auront donné envie d'aller creuser un peu cette réflexion de comment travailler en collaboration et mettre en place des services à la carte qui répondent vraiment aux attentes des socioprofessionnels du territoire pour travailler ensemble le territoire et co-construire vraiment des offres pour demain. Comme on l'a dit avec Leslie, vous trouverez les liens vers son profil LinkedIn si vous souhaitez en savoir plus sur sa démarche, sur sa méthodologie de co-construction avec les socioprofessionnels de son territoire pour mettre en place ce nouveau modèle économique. Je vous mettrai bien évidemment donc tous les liens dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas donc à partager cet épisode autour de vous si vous pensez que c'est quelque chose que votre office de tourisme devrait mettre en place. Et puis, moi, comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si cet épisode vous a plu, si le podcast vous plaît, merci de le partager autour de vous. Et puis, pourquoi pas me laisser une jolie note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et pourquoi pas venir échanger avec moi directement sur Instagram ou sur LinkedIn. D'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine et portez-vous bien. Ciao, ciao !